Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région.
Comme on se retrouve pour un autre numéro de Panorama des Régions sur les ondes de Radio de la Paix, c'est un plaisir qui se renouvelle et une joie qui ne tarit jamais quand il s'agit d'être en votre compagnie. Auditrices et auditeurs, nous allons aujourd'hui parler d'ondes électromagnétiques, comprendre ce que c'est et s'instruire sur la question, puis nous aurons un regard sur l'évolution des politiques linguistiques africaines. Qu'en est-il de l'usage de nos langues locales dans l'administration ivoirienne? Pour le savoir, restez à l'écoute de Radio de la Paix.
Radio de la Paix.
Nous prenons la direction de San Pedro, retrouver notre correspondant sur place, Kofi Benson. Bonjour Benson.
Bonjour Mel Emmanuel.
Comment allez-vous?
Ça va.
Alors ici à Abidjan, il pleut tantôt il y a du soleil. À San Pedro, comment ça se passe?
Je pense que c'est le même climat. Hein. Il pleut fortement en ce moment à San Pedro. Et naturellement, après la pluie, le beau temps, c'est-à-dire le soleil. Donc c'est une alternance pluie-soleil.
Quel retour pouvez-vous nous faire des faits marquants dans votre zone de couverture?
Aujourd'hui, principalement, nous parlerons de la restitution des résultats des mesures des ondes électromagnétiques, une restitution initiée par l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a trois sources de production des ondes. Principalement, nous avons les installations des agences des téléphonies mobiles. Il y a également les installations des radios locales, nationales et internationales. Et puis, en troisième position, nous avons les ménages ou individus. Alors, dans le cas des ménages, nous avons toutes sortes d'équipements ou appareils. À la maison, nous avons des téléviseurs connectés, des Wi-Fi, des micro-ondes et bien d'autres appareils produisant des ondes électromagnétiques. Parmi ces appareils, le micro-ondes semble être le plus grand producteur d'ondes électromagnétiques. À travers des expériences, nous avons vu que lorsqu'un téléphone portable est en communication, cela produit environ 4 volts mètre, pendant que le micro-ondes produit entre 200 et 400 volts mètre, raison pour laquelle il est recommandé de s'éloigner des micro-ondes lorsqu'on met le micro-ondes en marche.
Du coup, Benson, comment nous faut-il utiliser ces appareils?
Il faut utiliser ces appareils avec beaucoup de parcimonie, oui, avec parcimonie, parce que par ignorance, nous voyons certaines femmes mettre le téléphone portable dans les soutiens-gorge, ce qui n'est pas recommandé. On voit également des portables dans des poches où on se couche pratiquement avec le téléphone portable allumé ou le Wi-Fi dans la chambre. Ce sont des attitudes à ne pas faire pour éviter certaines surprises désagréables. Alors, pour la rencontre, il faut dire que l'attraction était posée sur les pylônes ou mal sur les dalles que nous rencontrons avec les téléphonies mobiles. Les populations ont véritablement décrié cette position parce que elle se dit que ces mâts ou ces installations produisent des radiations ou ont un impact sur les populations vivant proches de ces équipements-là. Des explications ont été données par le directeur de la gestion des fréquences, quoique chacun est reparti à la maison avec beaucoup d'informations. Et il est clair que ce qu'on peut retenir, il faut faire attention aux différentes installations, faire attention aux appareils que nous utilisons chaque jour pour éviter des surprises désagréables, comme je l'ai dit.
Et à cet effet, une activité de sensibilisation s'est tenue dans votre région et vous nous avez fait un compte-rendu. Nous allons l'écouter. En tout cas, merci beaucoup Benson pour votre contribution à Panorama des Régions.
Merci beaucoup Mel Emmanuel et bonne émission.
Merci.
Radio de la Paix.
Pour Bakary Diarasouba, directeur de la gestion nationale des fréquences au sein de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, la restitution des résultats des mesures des ondes électromagnétiques vise à sensibiliser les populations afin de réduire son exposition aux ondes électromagnétiques.
Nous avons fait 5 points de mesure au niveau de San Pedro et la valeur la plus élevée est de 6 volts par mètre. San Pedro baigne dans un champ électromagnétique très sain. Nous avons pu prodiguer certains conseils à toute l'assistance. Ces conseils d'usage concernaient l'utilisation des équipements qui utilisent des ondes électromagnétiques, notamment le téléphone, le micro-ondes, le wifi, la télévision, en fait tout ce qu'il y a à la maison. De façon concrète, au niveau du téléphone, éviter les longues conversations, privilégier les SMS, utiliser le téléphone en communication à main libre. Au niveau du micro-ondes, dès que vous mettez en marche, allez à 4 mètres du micro-ondes.
Pour Kofi Aoukanklo, de secrétaire général 2 de la préfecture de San Pedro, les échanges doivent se poursuivre pour mieux cerner la question des ondes électromagnétiques.
Nous repartons avec la conviction que la majeure partie des équipements qui nous entourent dégagent des champs électromagnétiques et il devient une nécessité absolue de s'en préserver. Au regard de l'acuité du sujet, je recommande que des rencontres B2B soient organisées pour ceux qui ne sont pas encore rassasiés par les réponses fournies ici.
Du 22 octobre au 1er novembre, une caravane dénommée AIGF Tour permettra de sensibiliser les populations sur le territoire ivoirien. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Radio de la Paix, mieux comprendre les enjeux.
Panorama des régions continue, toujours sur Radio de la Paix. J'ai au bout du fil le directeur de la gestion nationale des fréquences à l'agence ivoirienne des fréquences radioélectriques, monsieur Diarasouba Bakary. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et merci de répondre à nos questions.
Je vous en prie.
Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce que sont les ondes électromagnétiques ?
Les ondes électromagnétiques, donner une définition directe comme ça, c'est le champ électrique dans l'air, tout simplement. Je vous donne un exemple simple pour que tous ceux qui ne comprennent pas puissent mieux comprendre. Quand on va au bord de l'eau, par exemple, on prend un caillou et puis on jette dans l'eau. Vous voyez que ça fait des sphères autour. C'est une onde, en fait. Donc, c'est ce qui donne la campagne. Mais là, c'est ce qui se passe au niveau de l'air. Et comme c'est invisible, on ne voit pas.
Et quels sont les appareils ou sources les plus courantes d'émissions d'ondes électromagnétiques dans notre environnement?
Ok, merci. Il faut dire que l'homme baigne généralement dans un environnement des champs électromagnétiques. Et il y en a des sources naturelles et des sources industrielles. Les sources naturelles, on a par exemple le soleil qui émet un champ électromagnétique. On a par exemple le tonnerre. Quand il y a l'éclair, qu'il y a le tonnerre, c'est un champ électromagnétique. On a la terre qui est un champ électromagnétique. Ce sont les sources naturelles. Et on a les sources industrielles telles que le téléphone mobile, la télévision, le micro-ondes, les installations radioélectriques telles que les antennes de la téléphonie mobile, les antennes des radios de proximité telles que la radio de la paix a des installations radioélectriques qui sont tous des champs électromagnétiques.
Dans le reportage produit par notre correspondant à San Pedro, vous parlez de la ville qui baigne dans un champ magnétique très sain. Est-ce à dire que ça varie en fonction de l'aire géographique?
Vous savez, il y a des installations radioélectriques et régulièrement nous menons des campagnes de mesure de champs électromagnétiques que nous on appelle couramment les rayonnements non ionisants. Parce qu'il y a deux types de rayonnements. Il y a les rayonnements non ionisants et il y a les rayonnements ionisants. Les rayonnements non ionisants sont les rayonnements qui ne peuvent pas déplacer, qui ne peuvent pas toucher des particules. Alors que les rayonnements ionisants, tels que les rayons X, les rayons gamma, sont des rayonnements quand on touche, au toucher, qui peuvent déplacer, brûler même des particules. Maintenant, revenons exactement à la question. C'est-à-dire que le champ électromagnétique dépend des émissions des installations dans la ville. Et à San Pedro, comme je le disais là-bas, on a autour de 140 équipements radioélectriques. Il n'y a pas énormément d'équipements radioélectriques, dont les émissions sont quand même assez faibles. Et on a fait les mesures. La plus grande valeur, si j'ai bonne mémoire, tournait autour de 3 à 4 volts par mètre, ce qui est largement inférieur à la plus petite valeur par service, qui est de 28 volts par mètre. Donc, on pourrait dire qu'à San Pedro, la ville est saine au niveau des émissions du champ électromagnétique.
Du coup, j'ai envie de vous demander, M. Diarasouba, qu'en est-il d'Abidjan avec toutes ces installations?
Oui, Abidjan, on a les résultats d'Abidjan. Abidjan, logiquement, il n'y a pas de problème. Abidjan aussi est sain, selon nos contrôles. C'est vrai qu'on a beaucoup d'émissions radioélectriques. Ces émissions sont élevées par rapport à San Pedro, mais les valeurs sont toujours respectées. Donc, on pourrait dire qu'Abidjan, on n'a pas de problème au niveau du champ électromagnétique, selon la campagne que nous venons de mener.
Monsieur Diarasouba, quels sont les risques potentiels pour la santé associés à l'exposition aux ondes électromagnétiques?
Il y a plusieurs structures de recherche, notamment l'OMS, avec sa commission qu'on appelle la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, qu'on appelle couramment le CITRENI, qui mène des études. Jusqu'à présent, les structures n'ont pas encore pu prouver qu'il y a effectivement un danger potentiel lié à l'exposition au niveau des ondes électromagnétiques. Je dis bien potentiel. Pour le moment, c'est pas encore certifié par aucune structure de recherche connue qui dit qu'effectivement, c'est dangereux. Mais néanmoins, on nous donne des précautions pour prévenir au cas où demain on découvre qu'il y a un danger. Et ce sont ces précautions-là que nous donnons comme conseil à la population ivoirienne pour mieux se protéger.
Voilà, la perche nous est tendue. Nous allons la saisir en même temps. Quelles sont ces précautions-là?
Ces précautions, par exemple, c'est la meilleure façon d'utiliser nos équipements radioélectriques à la maison. Je prends par exemple le cas du micro-ondes. Le micro-ondes, c'est, on entend ondes, donc naturellement il y a de l'onde à l'intérieur, c'est un faux micro-ondes. Et du coup, nos mamans, généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand elles vont chauffer la nourriture au micro-ondes, elles mettent en marche et elles se mettent directement en face jusqu'à à la cuisson ou bien à l'échauffement de cette nourriture. Et en ce moment, nous les conseillons, quand elles mettent en marche, de quitter le local, d'aller un peu plus loin, 2-3 mètres du micro-ondes, et quand c'est chaud, elles pourraient venir enlever tranquillement. Ça, c'est le premier point. Le second point, au-delà, on a chez les gens à la maison. Et quand vous avez ça à la maison, l'idéal, ce n'est pas de mettre dans le berceau de l'enfant, mais c'est d'éloigner légèrement de l'enfant pour ne pas que ça soit collé à l'enfant. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est l'utilisation de Wi-Fi à la maison. On a des personnes qui mettent le Wi-Fi, par exemple, au sommet de leur lit. Nous leur conseillons de mettre le Wi-Fi à un endroit bien éloigné de notre portée, de telle sorte qu'il n'y a pas assez d'exposition. Ce que je voudrais dire le plus important, c'est l'utilisation de notre téléphone. Quand on numéro, quand on compose un numéro, il y a la partie numérotation. Et à ce niveau, il faudrait éloigner le téléphone de la tête. Et qu'est-ce que nous constatons? Dès qu'on finit de composer, on met automatiquement à la tête. Au cours de la numérotation, l'équipement qu'on a, le terminal qu'on a, augmente sa puissance pour se connecter à une cellule. Et il y a une augmentation de puissance à ce niveau. Deuxième chose, les longues communications. Quand vous avez une longue communication, aujourd'hui on a la jeunesse qui communique 2 heures, 3 heures au téléphone. Et sans quitte, oreille, ni aux mains libres. Nous conseillons, pour ceux qui veulent faire des longues communications, de mettre en main libre. À défaut d'avoir des kits oreilles, mais filaires. Parce que aujourd'hui le conseil est que les gens, ils ont les kits oreilles Bluetooth. Mais c'est aussi une antenne. Tout ce qui est une onde qui circule entre les deux. C'est un lien au niveau des deux, un lien radio. Donc pour éviter tous ces liens radio, on vous conseille d'utiliser les fils. Voilà un peu quelques conseils que je voulais donner.
Aujourd'hui, la technologie connaît une avancée considérable. On parle dans certains pays de 5G. Est-ce qu'en fin de compte, les efforts pour réduire l'exposition aux ondes électromagnétiques pourront véritablement porter leurs fruits?
En fait, je vous donne un simple exemple. À supposer qu'on est en train de communiquer, et vous avez votre voisin qui communique, vous avez un autre qui communique, à un moment donné, on ne s'en prendra pas. Et donc, quand on installe assez d'équipements, on est obligé de réduire au maximum la puissance pour pouvoir mieux communiquer. Et tant que la puissance n'est pas réduite, on ne pourra pas communiquer. Et plus on réduit la puissance, moins on est exposé. C'est vrai qu'on aura une pollution visuelle, mais on est obligé de réduire la puissance pour ne pas s'interférer. On est obligé de réduire la puissance pour mieux communiquer. Sinon, on va se retrouver dans une situation pas possible. Donc, que ce soit une station de radio de proximité, que ce soit une station de téléphonie mobile, plus on en a, plus l'opérateur, quand il dit opérateur, ça peut être une radio, ça peut être un opérateur de téléphonie mobile, est contraint de diminuer sa puissance pour pouvoir mieux communiquer. Donc, du coup, il y a une diminution de la pollution. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup qu'on est exposé. Mais la seule chose qui gêne, c'est quand il y a beaucoup, il y a une pollution visuelle. Et c'est pourquoi nous sommes en train de demander aux opérateurs de faire la mutualisation. C'est-à-dire qu'il y a un site dans la zone, tout le monde se met sur le site.
Vous avez parlé tantôt de campagne de mesures que vous menez sur le terrain. Quels sont les moyens dont vous disposez pour l'exécution de cette tâche?
Ok, nous avons des équipements de dernière génération qui nous permettent de faire ces mesures. Le secondo, nous faisons accompagner par des cabinets externes privés en Côte d'Ivoire pour nous permettre de faire ces mesures. Donc nous sommes équipés pour pouvoir faire toutes les mesures.
Et aujourd'hui, quels sont les résultats à ce stade de vos tournées?
Cette année, par exemple, on vient de finir une campagne où nous avons fait 400 points de mesure. Les résultats sont bons. Aucun résultat n'a dépassé les valeurs limites. Donc, on pourrait dire qu'en Côte d'Ivoire, le champ électromagnétique est bon et que la Côte d'Ivoire baigne dans un champ électromagnétique excellent.
Nous arrivons au terme de notre entretien, M. Diarasouba. À titre de rappel, quelles recommandations donneriez-vous au grand public pour minimiser l'exposition aux ondes électromagnétiques dans leur quotidien?
Merci bien, c'est ce que je disais tantôt, c'est d'utiliser nos conseils d'usage. C'est de vraiment utiliser les équipements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez un téléphone, ce n'est pas la peine de faire 2 heures, 3 heures avec le téléphone. Il y a même des gens qui dorment avec le téléphone tout le coup. Pour minimiser cela, vous voulez dormir, vous éteignez votre téléphone, ou bien vous le mettez au salon, ou bien vous le mettez à une distance d'environ 3 mètres de vous, et puis vous dormez tranquillement. Donc, ce sont ces quelques conseils que nous donnons régulièrement à tous ceux qui nous rencontrent, à tous ceux qui viennent vers nous. Et c'est pour cela, maintenant, nous avons décidé de faire des campagnes. Parce qu'avant, on ne faisait pas des campagnes, on ne communiquait qu'avec notre ministère de tutelle et les professionnels du secteur. Mais nous avons décidé maintenant d'aller vers la population.
Monsieur Dirasouba Bakary, merci beaucoup.
C'est à vous le merci. Et nous sommes disposés, à tout moment que vous avez besoin de nous, que ce soit moi, que ce soit un autre technicien de l'AIGF, nous pourrons répondre à vos préoccupations.
Et je rappelle que vous êtes le directeur de la gestion nationale des fréquences à l'Agence ivoirienne des fréquences radioélectriques.
Exactement.
Merci beaucoup et bonne journée à vous. Et
merci à vous de même.
Radio de la paix. Mieux comprendre les enjeux.
Cap est maintenant mis sur Yamoussoukro où s'est tenu début octobre un colloque international sur les politiques linguistiques africaines. Emiliao, notre correspondant sur place, a suivi cette rencontre pour Radio de la Paix. Écoutons son récit.
Ce colloque international ambitionne d'amener l'intelligentsia mondiale à construire un corpus de savoir et de connaissances scientifiques sur les politiques de gestion des langues africaines dans les différents pays du continent en insistant sur les nouvelles perspectives de planification et d'aménagement linguistique au moment où s'opèrent les changements globaux. Dr Ngata Koukoua Etienne, président du comité d'organisation.
Mais depuis les indépendances jusqu'à ce jour, nous voyons que les politiques linguistiques qui sont élaborées et appliquées en Afrique peinent à démarrer. Qu'est-ce qui fait le blocage? Nous avons voulu nous arrêter un moment pour réfléchir sur les différentes politiques qui sont appliquées, de sorte à partager l'expérience pour qu'ensemble, on puisse sortir les difficultés qui sont liées à l'application des politiques linguistiques pour que désormais les différents États puissent s'investir dans la promotion des langues.
Sissi Asiatane Diaby, directrice de l'alphabétisation au ministère ivoirien de l'éducation nationale et de l'alphabétisation.
Ce colloque est très important pour nous parce que lors des états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, l'une des recommandations fortes, c'est qu'on puisse définir une politique linguistique éducative qui prend en compte le multilinguisme.
Professeur Kwadio Nguessan-Jérémy, linguiste, membre de l'ASCAT.
Quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, nous savons que nous avons beaucoup de langues. Il va falloir que nous puissions faire en sorte que ces langues-là puissent accéder progressivement au statut de langue écrite qui vont entrer dans les écoles, qui vont entrer dans la vie pratique de tous les jours.
15 pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire et un d'Europe, notamment la Suisse, étaient présents à ces assises. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Radio de la Paix, la voix de la diversité.
Merci Émile pour ce compte-rendu. Après vous, nous sommes à présent en ligne avec professeur Ngata Etienne, président du comité d'organisation du colloque international sur les politiques linguistiques africaines. Bonjour professeur.
Oui, bonjour monsieur.
D'où vient la nécessité de tenir ce colloque?
Alors, je suis professeur Ngata Koukoua Etienne. Je suis enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Je suis maître de conférences. Je suis enseignant au département des sciences du langage et de la communication. D'où vient la nécessité d'organiser ce colloque? Nous avons fait un constat, c'est que les pays d'Afrique regorgent d'une diversité de langues qui sont appelées langues nationales. Malheureusement, aucune de ces langues n'est mise en première ligne dans les politiques de développement. Or, le développement est culturel et le modèle de développement que nous voulons pour l'Afrique, il faudrait que ce soit un développement qui prenne en compte les réalités africaines, notamment les cultures et les langues africaines. Parce qu'une politique africaine, pensée dans une langue africaine, elle est plus proche des populations et les populations sont plus accessibles. Elles comprennent mieux les tenants et les aboutissants de cette politique, les objectifs qu'on assigne à cette politique et les résultats suivent. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons réuni des experts, des spécialistes, des linguistes et même des personnes de la société civile, ainsi que des partenaires au développement et même les directions régionales de Yamoussoukro pour réfléchir ensemble sur les politiques linguistiques menées en Afrique.
C'était un colloque international. Ainsi, quels sont les pays qui y ont participé?
À ce colloque-là, il y a eu la participation aussi de pays africains, 14 pays, et un pays qui était la Suisse, pour partager l'expérience de la Suisse, qui est une expérience fabuleuse en termes d'intégration des langues dans le système de développement.
Comment pourriez-vous définir de manière simple, on va dire, une politique linguistique?
Alors, une politique linguistique, c'est l'utilisation des différentes langues en usage dans le pays, de sorte à ce que ces langues-là soient utilisées comme instrument de développement, notamment dans l'administration, dans l'enseignement et dans tous les secteurs vitaux. La politique linguistique, on pourrait assimiler aménagement linguistique, c'est-à-dire le fait de recenser les différentes langues pour voir les plus importantes et les promouvoir, au besoin même en faire pour certaines d'entre elles qui sont des langues à craindre, des telles de pratique, des langues officielles.
Et ici en Côte d'Ivoire, par exemple, quelle est la politique linguistique appliquée ou observée?
La politique appliquée, c'est une politique sectorielle, mais il faut dire que la politique linguistique en Côte d'Ivoire fait la part belle à la langue du colonisateur qui est le français. Le français est en usage dans tous les secteurs d'activité, dans l'administration, c'est la langue de l'administration, c'est la langue officielle, confirmée et affirmée par la Constitution. À côté du français, bon, il y a les langues nationales qui sont des langues de faible pratique, qui sont limitées à la pratique quotidienne, je dirais ménagère. Donc, nous voulons une politique qui promeut quand même les langues africaines, et particulièrement les langues ivoiriennes. L'Institut de linguistique appliquée, qui est une institution que l'État a créée pour promouvoir les langues ivoiriennes, a fait un travail qui permet à l'État d'avoir une base de données sur les politiques linguistiques, de sorte à promouvoir des langues. Je prends par exemple dans le groupe des langues quoi, les langues akan. On peut promouvoir une langue comme la Nibaoulé dans le groupe des langues Kru. On peut promouvoir une langue comme le Bété dans le groupe des langues Kourou. Il y a le Sénoufou. Et au niveau des langues Mandé, il y a le Maliki, comme on appelle en Côte d'Ivoire, le Tula. Selon l'Institut de linguistique appliquée, ce sont des langues à forte pratique qui peuvent être aujourd'hui des langues véhiculaires aux côtés du français. Passer des messages de sorte à ce que la population qui n'est pas, sinon qui ne pratique pas la langue française, puisse y appuyer pour comprendre la politique en vigueur.
Mais professeur, moi je suis tenté de vous demander, que reproche-t-on à la langue française?
Non, nous n'avons aucun reproche à la langue française, bien au contraire. Mais nous souhaitons qu'il y ait un partenariat. Parce que quand on fait le bilan du développement même en Afrique, nous constatons que l'Afrique peine à décoller. Ce n'est peut-être pas à nous de le dire, mais nous pensons que si on avait imaginé une politique qui prenait en compte les langues ivoiriennes, particulièrement les langues locales, je pense que les politiques seraient bien menées parce que le français, comme on le dit, fait un peu obstacle. Donc nous souhaitons qu'on s'appuie sur nos langues pour pouvoir mener une bonne politique de développement. Parce que le constat, il est clair. Hein. Quand on fait une politique qui prend en compte les langues locales, nous n'avons plus besoin de traduire cette politique-là aux populations. Traduire ou interpréter, cela veut dire qu'on pourrait détourner le message, on pourrait travestir même le message. Alors, les populations ne reçoivent pas directement le message qui est véhiculé par la gouvernance dans leur langue. Alors que si c'était le cas, je pense qu'on peinerait à faire une politique de développement cohérente. Ce serait plus fluide parce que l'enseignement serait mieux reçu. Les expériences ont montré que quand on enseigne dans les langues locales, l'enfant va plus vite, il assimile plus vite. Parce que là, il est habitué à la langue depuis la naissance, c'est la langue qu'il pratique. Donc il n'y a plus de transfert linguistique. Durant le colloque, Lille a amené une étude qui a porté sur l'administration publique, notamment sur trois ministères. Il y avait le ministère de la Santé, le ministère de la Justice et puis l'Agriculture. Mmh. Alors, les résultats sont parleurs. 73% de réponses pour oui d'utilisation des langues ivoiriennes dans les services publics. 51% pour le Sénoufo, 51% pour le Djoula, 25,7% pour le Baoulé. À titre individuel. Alors, ces langues-là sont recommandées comme langue de travail dans l'administration. Alors, quand on avance, on voit que toute l'administration ivoirienne demande que pour qu'il y ait une communication aisée entre les usagers et les services publics, il faut que les langues ivoiriennes soient utilisées dans le service public. Alors, voilà un cas pratique qui montre qu'il y a urgence à introduire nos langues dans le système de développement. Parce que quand quelqu'un va à l'hôpital, et que le médecin qui est là n'est pas de la région, ou bien l'infirmier qui le reçoit n'est pas de la région, vous voyez que c'est compliqué de lui expliquer la maladie, alors que la langue, la personne qui est souffrante ne connaît pas complètement la langue française. Alors le médecin qui a été instruit, qui a été formé en français, qui doit parler à un gourou, une femme gourou, une femme yakuba, vous voyez que quelquefois c'est difficile. Donc, on peut biaiser même les résultats, on peut faire un mauvais diagnostic, vu que le médium de communication qui est la langue fait défaut.
Mais donc, avec la diversité ethnique dont la Côte d'Ivoire regorge, comment va-t-on faire justement pour que tout le monde peut-être puisse adopter une langue particulière dans l'administration?
Je pense bien que la diversité est même une richesse. Alors, je venais de dire que l'Institut de linguistique appliqué, qui est logé à l'Université Félix Houphouët-Boigny, qui est une institution de l'État, a fait un travail formidable. Il faut qu'on discute hier les résultats de ces travaux-là, parce que l'Institut de linguistique appliqué a sélectionné 4 langues dans les 4 aires linguistiques. Quand on se retrouve dans l'aire linguistique Gour, on va parler le Sénifo. Quand on se retrouve dans l'aire linguistique Kouaakan, on va parler la langue Anibaoulé. Quand on se retrouve dans l'aire linguistique Krou, on va parler la langue Pété. Quand on se retrouve dans l'aire linguistique Mandé, on va parler le Malinké qui est le Djoula. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces langues-là peuvent jouer le même rôle que le français. Voilà un résumé de ce qu'on appelle la diversité linguistique en Côte d'Ivoire. On va utiliser les langues les plus parlées dans les différentes aires linguistiques pour en faire des langues véhiculaires. C'est-à-dire des langues qui seront utilisées dans le groupe Kouaakan, où on peut retrouver le Baoulé, l'Agni, la Bouré, la Bidi, la Dukuru, la Thié, etc. Toutes ces langues-là seront résumées en Agni Baoulé. Ça veut dire qu'on fera l'effort de parler l'Agni Baoulé comme langue véhiculaire. Et là encore, bon, les populations se sentiront un peu plus proches parce que c'est une langue de chez nous. Donc, il suffit de vouloir et de s'adresser aux spécialistes, d'engager les moyens, et puis le travail sera fait. Je ne dis pas que ce sera facile, mais il y a déjà eu un travail de base. Il suffit seulement de relancer les choses, d'impliquer l'Institut de linguistique appliquée, et vous verrez que on ne trouvera plus la diversité linguistique comme étant une barrière à l'utilisation des langues dans l'administration ou dans le développement, dans le système de développement du pays.
De souvenir, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'émancipation des langues locales en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va changer cette année avec la tenue de votre colloque, justement?
Ce que vous avez dit est tellement juste. Il y a longtemps qu'on répète qu'il faut émanciper nos langues. Et je crois que à chaque fois qu'on fait le rappel, quelque chose est fait. L'introduction des langues dans le système éducatif est le résultat de ces rappels-là. Aujourd'hui, avec ce que l'Institut de linguistique appliquée a fait comme projet, qu'ils ont appelé « Résultat du projet Action pour l'intégration des langues ivoiriennes dans le Programme national de développement », dans le PND, au dit du professeur Kwame Nkrumah, Jean Martial, il y a une urgence, le besoin est réel. Donc je crois que si aujourd'hui on n'est plus au stade d'introduction des langues dans le système éducatif, mais dans le Programme national de développement, ça veut dire que les praticiens de l'administration sont demandeurs. Il faut élargir cela à d'autres administrations et puis porter ces résultats-là au niveau de la gouvernance pour qu'elles se rendent compte qu'il y a quand même nécessité. Il faut passer à l'action et c'est ce que nous souhaitons. Nous, dans nos différentes recommandations, nous avons fait la proposition que les pouvoirs publics soient saisis. Nous avons souhaité même mettre en place un comité de suivi pour suivre l'évolution des résolutions qui ont été prises au cours de ce colloque.
Enfin, professeur, quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes Africains concernant l'importance de leur langue locale et leur préservation?
Alors, je dois dire, avant de terminer, je vous dis merci. Merci à la Radio de la Paix qui nous donne l'occasion de parler de nos langues encore une fois. Pour répondre maintenant à votre question, d'abord, il faut que nous, Africains, nous sachions que nous avons des langues qui sont au même niveau que le français, l'anglais, l'espagnol, qu'on appelle des langues internationales. La force d'une langue, c'est le pouvoir qui le tient. Au cours de ce colloque, nous avons eu l'expérience de la Suisse, un pays qui avait 3 langues officielles, le français, l'italien et l'allemand. Mais le rhéto-romanche, qui est une langue minoritaire, avec les politiques italiennes menées par Mussolini et autres, on a voulu assimiler cette langue. Mais les populations se sont battues, elles ont obligé l'État fédérale a organisé un référendum en faveur de cette langue pour lequel les populations ont voté massivement. L'expert qui était là, le professeur Thomas Berg, nous a dit que le vote a donné 80% pour l'introduction du rhéto-remanche dans le système de développement. Et avec ce résultat-là, l'État central a été obligé d'en faire une langue officielle aux côtés des trois autres. C'est la preuve que la force, si les Africains décident à considérer leur langue comme des langues fortes, des langues actives, je crois que l'administration ne fera que suivre. Il faut que les pays africains commencent à réfléchir à au type de développement qu'ils veulent. Parce que les développements qui sont portés par les langues internationales ne sont pas des développements qui sont assis sur nos cultures. Alors que ce sont des développements qui sont portés par nos langues, ce sera notre modèle de développement. Parlant de mondialisation, nous aurons quelque chose, un modèle de développement à apporter au monde entier. Quand on parle de l'Inde, c'est une force. Quand on parle du Japon, quand on parle de la Chine, c'est une force. Regardons ces pays-là, quel est l'instrument de développement? C'est leur langue locale. Pour conclure, je voudrais dire aux jeunes Africains, il faut apprendre à compter tout soi et puis aller à la mondialisation avec ce que nous avons de particulier, qui sont nos langues, nos cultures. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont venus participer à ce colloque, les amis de l'international, particulièrement merci et reconnaître la force du professeur Thomas Burt, MEP de 80 ans, qui a fait le déplacement depuis la Suisse pour venir et nous apprendre qu'il est utile et important de compter sur ses propres langues. Il parle couramment le Toura et ça a été séduisant parce que c'est un spécialiste, quelqu'un qui a commencé à travailler sur les langues ivoiriennes depuis 1964. Allez-y comprendre quelque chose.
Ça fait pratiquement 60 ans.
Vous voyez, et il a passé 60 ans à travailler sur les langues ivoiriennes. Passer les deux jours avec nous, finir le colloque, montrer que la Côte d'Ivoire a des langues sur lesquelles elle peut compter pour son développement.
Et c'est ce qui a justifié justement la tenue d'un colloque international sur les politiques linguistiques africaines. Professeur Ngata, merci d'avoir participé à notre émission Panorama des régions.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Et voilà qui met un terme à notre rendez-vous hebdomadaire Panorama des régions. Pour la réalisation de cette émission, j'ai eu l'accompagnement de nos correspondants en région, Kofi Benson à San Pedro et Emile Yao à Yamoussoukro. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un autre Panorama des régions.
Panorama des régions. Panorama des régions pour un tour d'horizon des faits marquants toutes les semaines avec nos journalistes en région. We'll be right back.